Des îles Comores. Bonsoir, comme on l'a annoncé à Dar, nous accueillons aujourd'hui Alimsa. Alimsa qui vient juste de sortir un livre Mythe de pouvoir aux Comores, entre notables traditionnels, notables professionnalisés, politiques professionnels, le cas Azali aux éditions de la Lune. Première question, Alimsa, où est-ce qu'on peut acheter ce beau livre?
Merci de m'avoir invité. C'est très important parce que je pense que l'une des choses qu'on devrait faire les journalistes, c'est d'inviter quand il y a un jeune chercheur ou un écrivain qui a écrit un livre, de l'inviter pour s'exprimer, ne serait-ce que de faire savoir ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit, afin de permettre à ceux qui ont envie d'acheter le livre de l'acheter. Alors, pour cette question, on peut acheter le livre Mythe de pouvoir aux Comores à n'importe quelle librairie informatisée. On peut l'acheter à la FNAC par exemple, on peut l'acheter
au jeune.
Voilà, il suffit de savoir le titre, Mythe de pouvoir aux Comores, l'auteur, Moussa Djamel, et l'éditeur, les éditions de la Lune. Voilà, avec ces trois éléments, suffiront pour qu'on puisse chercher à travers les moyens informatiques le livre.
D'ailleurs, on se rappelle bien, il y a 2 ans, quand tu as écrit le livre La dynamique de l'histoire, t'avions reçu ici voilà, pour présenter le livre, si ma mémoire est bonne.
Non, j'ai pas eu l'occasion parce que j'étais à Marseille et puis je suis venu à Paris, donc je savais pas vraiment s'il y a une radio comme celle-ci qui peut me donner quelques minutes pour m'expliquer.
J'ai dû comprendre avec un autre écrivain, comme un jeune comme toi. Je rappelle aux auditeurs voilà, que tu n'as que 26 ans.
Ouais.
Et que
mais c'est
bon. Ah bon, oui. Cette année, bon, ça passe vite.
Absolument.
Je baisse l'article de l'automne et que.
Qu'on va appeler l'Union des Comores. Donc,
en même temps, c'est la période du coup d'État, voilà.
En même temps,
par le président Azali.
Oui, c'est la période du coup d'État de Kwame Azali qui a permis d'accéder au pouvoir. Alors pourquoi je m'intéresse à ce sujet, aux acteurs politiques? Tout simplement parce que je pense qu'il faut un jour qu'on s'intéresse aux hommes politiques qui nous gouvernent, aux dirigeants qui nous gouvernent, savoir comment ils accèdent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font avec le pouvoir, comment ils font pour accéder au pouvoir, pour maintenir, quels sont les enjeux ou les intrigues qui se dégagent à l'intérieur même du pouvoir une fois qu'ils sont au pouvoir. Voilà pourquoi je me suis intéressé à ce sujet. D'abord, pour essayer de voir que font les hommes politiques une fois accédés au pouvoir, comment, surtout, la question centrale de ce livre, c'est celle-ci, comment un homme comme un allié militaire, que je dirais un putschiste, qui a abandonné son rôle du militaire de défense de l'État en 1995 lors de mercenariat, et du coup, en 1999, qui, avec bien sûr un certain nombre de technocrates et techniciens, du discours, des citations, arrivait à se faire comme étant l'homme des situations capable de sauver le Comores. Alors, en 1995, il n'a pas pu, en tout cas, il a déserté. Voilà l'une des questions que j'essaie de dégager.
Ça, tout en rappelant que le pays déjà se trouvait dans une crise séparatiste, avec la proclamation, l'autoproclamation de soi-disant indépendance de l'île d'Anjouan en 1997. Ma question, c'était pour savoir pourquoi tu n'as pas parlé de cette période séparatiste, en fait, avec cette élite, en même temps mélangée, on va voir dans le livre, et en même temps une nouvelle classe politique, mais tellement soit manipulés ou désabusés par les anciens, quoi.
Oui, c'est ça. J'ai parlé un petit peu du séparatisme parce qu'on ne peut pas parler, analyser le phénomène, la figure d'Azali sans pour autant parler du séparatisme. Pourquoi? Parce que je pense que l'un des facteurs qui a favorisé l'avènement de cette figure est une figure prophétique parce qu'à la fois il est venu dans un contexte de crise, hein, de crise institutionnelle et politique, et en même temps dans un contexte où les hommes ordinaires, les hommes politiques, ce qu'on appelle les notables personnalisés, qui avaient le pouvoir à cette époque, n'ont pas pu, soit par de mauvais calculs internes, résoudre la crise. Donc on ne peut pas parler de ce phénomène.
Là, on parle de l'époque de...
On parle de l'époque de Taki.
Là, on a flou.
On parle de l'époque de Taki.
Ça a commencé en 99, donc c'est Taki était déjà décédé. Enfin, bon.
Oui, il est déjà décédé, bien sûr. Je dirais l'avènement ou les conditions qui ont permis l'arrivée dans un lieu au pouvoir, c'est déjà les calculs, sinon les conséquences de la politique takienne, si j'ose dire, parce que Taki, il y avait la crise séparatiste, et puis Taki, au lieu de résoudre, c'est-à-dire de politiser les mouvements centrifuges, les séparatistes, de l'insérer dans la politique, de les amener à se présenter sur la table de discussion pour parler de régime, des conditions, surtout qui sont difficiles, qu'affectent les enjoignés, la population enjoignaise, il est de part de la force. Et ça accentue le mouvement séparatiste. Parce qu'à la fois, il les a donné une force, mais en même temps, il s'est décrédibilisé. Alors, Azali, quand il est venu, au lieu d'utiliser les mêmes procédures, les mêmes techniques, il a politisé les mouvements centrifuges. Il les a donnés comme étant interlocuteurs, des gens capables de discuter, de parler politique. C'est parmi l'un des enjeux, l'un des facteurs qui ont permis aux amis d'avoir une crédibilité qu'il n'avait pas auparavant.
Oui, je reviens sur la classification des hommes politiques. Catégorisation des anciens, traditionnels, mais on a vu que même à la période d'Abdallah, ces anciens ont bien vécu. Il y a eu quand même quelques jeunes, la rigueur qu'on essaie d'intégrer. Je pense par exemple à Tara Maïcha, à l'époque on considérait qu'il était un petit peu parmi les jeunes ministres et tout ça. Mis à part des notables comme Sedachim, Mohamed Taki, justement, les Wadjaye, où il y avait presque un conflit entre Wadjaye et Taki. Et cette période étant passée à la période des Djouar, il y a eu déjà une petite ouverture, parce que Djouar a essayé de mettre de côté les partisans, les anciens déjà de Mme Abdallah, en tout cas dans ceux qui... On était patients d'avoir leur soutien, de chercher de nouveaux soutiens tels comme Changamin et tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette mutation a commencé depuis plutôt la période de Djouar? Et quand on va, parce que vous avez évoqué dans le livre, tu as évoqué, oui, bon, j'ai commencé à le titrer, oui, on se connaît, la période d'Ali Soli, je suppose qu'Ali Soli, on peut le considérer à l'époque comme un jeune, puisque Ali Soli est mort de mémoire à 38 ans.
Oui.
Les jeunes révolutionnaires, qui à ce moment, il reste quelques-uns, tels que Mohamed Bakar Tosar, qui est secrétaire du gouvernement, Issoufou Saïd, qui est vice-président de l'Assemblée.
Oui.
Est-ce que cette mutation, il n'y a pas une révolution de jeunesse entre 75 et 78, là on retourne un petit peu en arrière, et que c'est une mutation qui s'avère à une période où il y a une sorte de vide, parce que l'Issoufou, quand il est allé au pouvoir, ils ne pouvaient pas composer qu'avec, entre guillemets, les notables qui étaient acquis pour Hamid Abdallah. Ils ne pouvaient pas leur faire confiance, même s'il a travaillé avec des gens à qui ils ne pouvaient pas faire confiance, mais il a rapatrié des jeunes. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, entre autres, Azali aurait fait la même chose, en rapatriant des jeunes, mais qu'on a considéré par la suite comme des jeunes loups, parce qu'ils ont fait les mêmes méthodes de corruption, de détournement de fonds et tout ça, et qu'en ce moment, Sambi, si on remarque dans son cabinet, il est entouré de jeunes à qui n'étaient pas, disons, de la vie politique. Est-ce qu'on peut dire que chaque fois qu'il y a un pouvoir, il essaie un petit peu de rajeunir pour pouvoir mettre des partisans plus fidèles, et non pas prendre, entre guillemets, les mêmes.
Il faut savoir qu'au Comore, il y a trois catégories qui gouvernent l'espace social comorien. Il y a ce qu'on appelle les notables traditionnels, ce sont les Zéwanis, qui ont quand même un pouvoir considérable et influent, quel que soit dans l'espace social, dans les affaires sociales quotidiennes ou même politiques. Il y a l'autre catégorie qui est en déclin après l'arrivée dans Ali Assoumani, que j'appelle les notables personnalisés. Donc, personnalisés, ce sont des agents, des individus biologiques qui sont nés dans une grande tradition, dans une famille aristocratique, et surtout issus des centres urbains, qui, de par leur autorité sociale, leur propriété économique, ont pu accéder au pouvoir par la professionnalisation lors de la colonisation. Ils étaient proches des administrations colons, donc ils ont profité d'apprendre le français, à écrire, à s'exprimer, à construire un discours cohérent, c'est mon métier, etc. Mais Malissoli, moi je les classe, c'est vrai, c'était difficile de les classer, je dirais même que c'est un individu inclassable. Pourquoi ? Parce qu'à la fois il est issu de cette aristocratie, mais il a parmi sa méthode la plus subtile, c'est de s'effacer, d'effacer son origine sociale, de se considérer comme par issu du peuple. Or, il était issu d'une grande famille, s'il était ici, on dirait bourgeoise, mais là-bas, on dirait notabilier. Alors, ça, c'est la deuxième catégorie du notable personnalisé. Pourquoi notable personnalisé ? Parce qu'ils sont issus de familles notabilières qui ont des pratiques coutumisées, voilà, avec en relation avec la tradition coutumière. Mais ils ont rompu un petit peu avec cette pratique coutumière et adopté d'autres pratiques politiques un petit peu modernes. Mais ils ne sont pas allés loin, parce qu'on a vu Abdallah, même Taki, même Durar, c'est vrai, il a voulu impulser avec Chagama. Quand même, il a participé à un rejaillissement de la classe politique commune, mais quand même, du coup, il était entre les deux. Il était à la fois, il était sous l'influence relative des notables, mais en même temps sous l'influence relative des technocrates. Alors, il y a une troisième catégorie qui est venue en 1999 qui s'appelle politique professionnelle. Politique professionnelle, pourquoi ? Parce que ce sont de jeunes gens, dont la plupart sont issus des classes populaires et moyennes, et qui ont été initiés par les notables professionnalisés en déclin, c'est-à-dire Rojaïe, Muzawa, etc., qui avaient les grands partis traditionnels, classiques. Ils ont rompu avec eux. On a vu que la meilleure façon de les écarter du pouvoir, de marquer leur mort symbolique, de les envoyer au cimetière politique, c'est d'abord d'échanger les institutions, d'achever la République, puisque ces notables-là ont institué la République fédérale, et d'instaurer de nouvelles institutions. D'autres remarques qui a marqué la fin de ce notable, leurs pères, leurs aînés, c'est de travailler pour la dissociation de leur parti, le forum. On a vu que l'une des erreurs qu'a commis Abbas, on voit même les dinosaures qu'on appelait les dinosaures par dérision, c'est de casser la partie qui lui donnait force. Le forum, en jouant cavalier seul, en jouant le jeu d'un seul individu qui a participé à leur fin. Voilà les trois catégories qui existent aujourd'hui au Congo. Alors, est-ce que vous avez parlé de Mohamed Bakar, est-ce que lui, il est de ces catégories ? On peut dire qu'il est de notable, il est de politique professionnelle, parce qu'à la fois, il est issu d'une famille populaire moyenne, mais en même temps, il a participé à l'arrivée, voire même à la légitimation d'Azali. N'oubliez pas qu'Azali s'appuyait au mouvement centrifuge. Les mouvements centrifuges séparatistes ont été suspendus, ont été punis, il y avait un embargo mis par l'UIA, et Azali est venu enlever cet embargo. L'une des tactiques décidées pour gagner les foules en juin. On a vu qu'il a été voté en majorité en juin. Pourquoi ? Parce qu'il a reconnu, c'est-à-dire le mouvement centrifuge. Donc, Mohamed Bakar participe, il est, je peux dire, on peut les classer parmi les politiques professionnels.
Enfin, bon, là, ils ont fait des compromis, ils se sont traités. En même temps, comment on peut classifier la catégorie des gens qu'on peut considérer comme des jeunes, mais technocrates, mais pas issus d'une influence de notable, parce que ce sont des gens qui ont fréquenté les partis, mais qu'on peut considérer comme opportunistes, tels que Madim Saidi qui était avec Abbas et puis qui est arrivé avec Azali, ou disons l'ancien ministre des Affaires étrangères, j'ai un petit trou de mémoire, le dernier ministre des Affaires étrangères.
Seif Lamine.
Non, c'est pas Seif Lamine, mais Abdoussef, voilà, qui était du Front démocratique et qui a rallié tout de suite Azali. Est-ce que cette catégorie, qui n'ont pas fait comme tu l'as écrit dans le livre, le Handa, mais en même temps qui se sont par la suite imposés par les moyens financiers qu'ils ont, qu'on soit tout ça pour avoir une notoriété quelconque par le pouvoir, mais on sent maintenant qu'après le pouvoir, ils n'auront plus rien, quoi, à part les moyens financiers qu'ils ont pu se réserver pour...
Oui, parce que les notables, certes, ils avaient un ensemble des ressources culturelles, mais d'après les enquêtes que j'ai faites, on trouve que sur on trouve que par exemple il y a très peu de notables professionnalisés qui ont fait leurs études jusqu'à bac plus 4, c'est très peu, ou vraiment ou bac plus 5. En tout cas, il y a même de niveaux bac, voire même un sous-bac. Donc cela étant que les ressources que mobilisent les non notables, c'est quoi? C'est leur autorité sociale, c'est du fait d'appartenir à une grande famille qui leur discerne une forme de pouvoir symbolique, à la fois de se rapprocher du pouvoir, mais en même temps de l'administration française. Bon, pour ce qui concerne, disons, quelqu'un comme Souef, comme Abdou Souef, par exemple, il faut savoir quand même, il appartenait à cette catégorie de notables professionnalisés, mais il appartenait aussi à un parti, je dirais, qui avait une certaine idéologie, l'un des partis qui avait une certaine idéologie, qui, à part
le monde du Front démocratique,
absolument, qui avait une forme d'idéologie marxiste-léniniste, qui, par la discipline du parti, une sorte de machine, hein, qui forme les gens qui n'avaient pas assez des ressources culturelles de pouvoir utiliser dans l'espace social.
On va continuer à parler du livre, parce que là, on parle vraiment de politique, on parle du contenu de ce livre, de ce beau livre que je vous conseille de l'acheter. Le livre, il s'appelle « Lutte de pouvoir aux Comores ». Vous pourriez l'acheter dans les FNAC. Et partout. C'est un beau livre qui parle de tout. Moi, ma question, c'est que Monsieur Djamal, dans ce livre, vous parlez aussi du mariage, du grand mariage. De quoi il y a à voir avec ce livre dans le mariage?
Oui, je parlais, parce qu'on ne peut pas parler, quel que soit le sujet qu'on traite, passer sans aborder d'une façon brève ou large la question du mariage. Pourquoi? Parce que le mariage s'inscrit dans ce qu'on appelle dans un champ de lutte pour des positions plus ou moins prestigieuses ou dominantes. C'est-à-dire que, et encore les hommes politiques comme Racine, pour pouvoir accéder au champ politique, à la politique, ils ont passé obligatoirement par ce système, par le grand mariage. Le grand mariage est l'un des espaces où les individus, quels que soient même des élèves, des étudiants, des intellectuels, des cadres, puisent des ressources, puisent une forme de reconnaissance, pour pouvoir aller un peu loin, pour pouvoir faire bénéficier d'un déplacement vers le haut. On a vu dans les villages, les jeunes étudiants et étudiantes passent par la musique. Hein, c'est sur ce système qui recrute les jeunes gens, les jeunes filles, pour danser, faire danser, organiser le village ou la ville. Et à partir de cette participation dans des activités villageoises organisées, maîtrisées, dominées par les notables, ces jeunes gens, ces politiques, une forme de reconnaissance qui me permet d'aller loin, d'être reconnu, d'être connu. Salim Alianir, aujourd'hui, qui est parmi les artistes les plus dominants dans le champ littéraire, artistique, il est passé par le système du grand mariage. Quand vous voyez les secrétaires aujourd'hui dans le champ politique, ou des associations qui dominent les espaces associatifs, sont passés par ces systèmes qui ont une forme plus ou moins moderne, parce qu'il y a un secrétaire, un trésorier, et les gens qui assument ces fonctions des trésoriers, du secrétaire, par exemple des chanteurs, etc., ce sont des jeunes gens, des jeunes filles qui ont bénéficié du système aujourd'hui dans le champ politique, ou des associations qui dominent les espaces associatifs, sont passés par ces systèmes qui ont une forme plus ou moins moderne, parce qu'il y a un secrétaire, un trésorier, et les gens qui assument ces fonctions des trésoriers, du secrétaire, par exemple des chanteurs, etc., ce sont des jeunes gens, des jeunes filles qui ont bénéficié du système scolaire de diplômes. Et avec la participation dans le système du grand mariage, donc on finit par aller un peu loin, voilà, bénéficier de placement vers le haut. C'est pourquoi on ne peut pas parler n'importe quel sujet sans passer par le système du grand mariage. D'autres facteurs, c'est que le système même du grand mariage est en concurrence avec les champs politiques. On voit qu'il y a une difficulté aujourd'hui pour les institutions municipales de s'insérer, de personnaliser, parce qu'il y a le poids des notables.
Je pense que là, on a bien compris que le grand mariage est devenu un passage obligatoire si on veut être reconnu, quel que soit le domaine. Que ce soit.
Oui, absolument, sauf si on change l'esprit social, les modes de reconnaissance. On voit bien, par exemple, Youssouf Saïd qui se réclame de soilihiste, une idéologie autonomiste qui se veut en tout cas autonome par rapport au système du grand mariage.
De l'Assemblée.
Oui, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée, en même vice-président de l'Assemblée, mais en même temps leader du Parti Tchad. Il a fait le grand mariage pour, dit-il, avoir droit au pain, c'est-à-dire être reconnu. Donc pour lui, comme pour ses confrères, c'est un passage obligé. Il y a Monetari aujourd'hui qui est maître de conférence à l'Université de Caen, une institution rationnelle, scientifique. Mais pour avoir une forme de reconnaissance, en tout cas dans l'espace social, il a dû faire le grand mariage. Il y avait Mohamed Abdelhab, qui est aujourd'hui au cabinet de la Défense. Il a passé par là. Donc, si on reste sur... d'autant plus que ce système existe, et qu'il y a une thème existe, et qu'il y a une influence considérable, les hommes politiques, voire même des intellectuels, qui se veulent être consacrés, hein, être reconnus comme étant intellectuels ou hommes politiques, il ne faut qu'on passe par le grand mariage.
Merci, Jamal. La dernière question que je vais vous poser, c'est de savoir si c'est votre premier livre, ou c'est le deuxième.
Ça, c'est mon deuxième livre. Mon premier livre, il traitait des relations internationales, c'est-à-dire surtout analyser le choc de civilisation, pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a le phénomène du choc de civilisation, hein, des cultures. Ça, c'est mon deuxième. Je suis en train de préparer un autre livre qui traite sur les étudiants comoriens et l'immigration, voilà. Les étudiants comoriens et l'immigration.
Merci beaucoup. On va faire une pause musicale. On revient en langue nationale, en langue comorienne, avec Moussa Jamal qui est dans nos studios.